France Musique. Musicopolis. Offenbach nous emmène sur la Lune. Le travail préparatoire fut un enchantement, écrit Albert Van Loo, l'un des librettistes d'Offenbach. Les rendez-vous à Saint-Mandé avec Grévin, qui dessinait les costumes, les courses chez les décorateurs, dont les maquettes étaient des merveilles, les auditions au théâtre, tout cela occupait le temps on ne peut plus gaiement. De plus, pour travailler plus à l'aise à sa partition, Offenbach s'était installé dès le mois de mai à Saint-Germain, dont il faisait sa villégiature favorite. Une ou deux fois la semaine, nous nous rendions chez notre compositeur. Rien d'amusant comme de le voir continuer à écrire tout en causant et couvrir les portées de ces minuscules hiéroglyphes qu'il jetait sur le papier d'un geste saccadé. Trait, point, trait, point, point, trait. Absolument un télégraphiste devant son morse. Puis la lecture et les répétitions, avec des artistes comme Christian, Griveaux, Tissier, Scipion, Zulma Bouffard et toute une troupe de petites femmes jeunes, jolies et gaies. Il n'y avait réellement pas moyen de s'ennuyer et jamais pièce ne fut comme celle-là préparée dans la joie. L'ouvrage d'Offenbach dont parle Albert Van Loo dans ses souvenirs, c'est « Le voyage dans la Lune », créé en 1875. Dans le même chapitre, il raconte comment est née la pièce qu'il a écrite avec ses deux collaborateurs, Eugène Leterrier et Arnold Mortier. Souvenir de Van Loo. En lisant un article de Théophile Gautier à propos d'une revue jouée au théâtre du Château d'Eau, « Qui veut voir la Lune ?» et où la revue n'était qu'un prétexte à broderies éblouissantes, Mortier avait été vivement séduit par la magie des descriptions. Dès lors, il ne rêvait plus que d'écrire une pièce se passant dans le monde lunaire et il nous avait aisément fait partager son désir. Seulement, si le point de départ se présentait facilement, l'embarras commençait dès l'arrivée de nos personnages dans la Lune et nous ne réussissions pas à trouver le fil qui pourrait relier toutes les scènes plus ou moins satiriques et les motifs de décoration que nous avions notés au fur et à mesure de nos conversations. Voyez-vous, dis-je une fois à Mortier, je crois que nous perdons nos peines. Comment inventer une action qui se tienne suffisamment sans qu'il y ait au moins deux amoureux? Et dame, que peut bien être l'amour dans la Lune? Il n'y en a pas. Vous avez trouvé, s'écria Mortier, il n'y en a pas. L'amour sera inconnu dans la Lune et c'est de la Terre qu'il y sera apporté. Avec cela, nous avons de quoi établir une pièce. En effet, poursuit Van Loo, à partir de cette séance, nous eûmes tôt fait de mettre notre grande machine sur pied et de la porter à Offenbach, qui avait alors la direction de la gaieté et dont nous n'avions pas mis un seul instant en doute l'empressement à recevoir un ouvrage aussi mirifique. Aussi quel déconvenu quand il nous le refusa tout net. D'abord, il avait bien d'autres projets en tête. En outre, l'énormité des frais l'épouvantait, lui qui pourtant n'avait pas l'habitude de reculer devant les mises en scène les plus fastueuses. reprîmes notre manuscrit pour le porter au Châtelet, où il fut reçu tout de suite par le directeur d'alors, un monsieur Fischer, qui d'ailleurs ne dura pas assez longtemps pour nous jouer. Entre-temps, Offenbach, rebuté par l'insuccès éclatant de sa dernière pièce, se décidait à passer la main pour la direction de la Gaîté à Albert Visentini. Celui-ci, qui avait assisté à tous nos pourparlers et tout tenté pour qu'on se décidât à nous monter, mit comme condition que la première pièce nouvelle qu'il afficherait serait « Le voyage dans la Lune ». En ce cas, dit Offenbach, c'est moi qui en écrirai la musique. Mais vous ne vouliez pas en entendre parler ? Comme directeur, oui. Seulement, du moment qu'il se trouve quelqu'un pour faire la folie, je veux en profiter. Une folie, conclut Van Loo, qui fit en quelques mois entrer plus d'un million dans la caisse du théâtre. Voilà donc comment l'histoire du voyage dans la Lune a commencé, sur un thème à la mode dans les années 1860, avec le spectacle « Qui veut voir la Lune ?», les romans de Jules Verne, « De la Terre à la Lune »,« Voyage au centre de la Lune » et même « Le tour du monde en 80 jours », dont Verne lui-même a fait une adaptation théâtrale fort réussie en 1874, un an avant la création d'Offenbach. Création qui a lieu à Paris, au Théâtre de la Gaîté, le 26 octobre 1875.
Flan, je suis Flan, c'est moi, le roi Flan, 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 je suis le roi Flan, 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 je suis Flan, c'est moi, le roi Flan, 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 je suis le roi Flan, Flan. Dans le dur métier du roi, rien n'est bon, croyez-moi, comme un nom fier et terrible, car lorsque l'on apparaît, aussitôt chacun se tait, et grâce à ce secret, on fait une peur horrible à chaque sujet. C'est pour ça que le mien me paraît assez bien. Il est très vif, il résonne, il fait du bruit, il étonne. Oh, Flan, Flan, je suis Flan, c'est moi, le roi Flan, 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 je dis le roi Flan, 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 je suis Flan, c'est moi, le roi Flan, 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 Flan.
On connaît la passion d'Offenbach pour les jeux de mots et les jeux de sons sur les mots. Cette répétition du mot « vlan » devait évidemment lui plaire. De même que son goût pour la satire devait aussi lui faire apprécier le caractère de ce roi, qui se dit doux, sans autorité, trop débonnaire et gêné de parler impôt, mais qui se félicite d'avoir un nom fier et terrible qui fait une peur horrible à chacun de ses sujets. D'ailleurs, ce roi vlan en a assez de son métier. Il voudrait passer la couronne à son fils, joliment prénommé Caprice. Un nom pareil prédispose-t-il à l'exercice du pouvoir ? La question reste posée. Quoi qu'il en soit, puisque les voyages forment la jeunesse, Caprice a été envoyé faire le tour de la Terre. Le voici revenu.
Ah, j'en ai vu, ah, j'en ai vu, le connu puis l'inconnu, le prévu puis l'imprévu, j'ai tout vu, oui, j'ai tout vu, j'en ai vu, ah, j'en ai vu, le connu puis l'inconnu, le prévu puis l'imprévu, j'ai tout vu, oui, j'ai tout vu. Tu m'avais dit, mon enfant, on s'instruit en voyageant. Eh bien, moi, je peux te dire que j'ai tout fait pour m'instruire. Et je te reviens, papa, assez instruit comme ça. Je connais toute l'Afrique, je connais le pôle Nord, l'Angleterre, l'Amérique, et surtout la saison d'or, et surtout la maison d'or. Ah, j'en ai vu, ah, j'en ai vu. Le connu, puis l'inconnu. Le prévu, l'imprévu. J'ai tout vu, puis j'ai tout vu. J'en ai vu, ah, j'en ai vu. Le connu, puis l'inconnu. Le prévu, puis l'imprévu. J'ai tout vu, tout vu, tout vu.
Nous entendons ici Joseph Perron, un ténor, chanter le rôle de Caprice. Un rôle pourtant écrit pour une femme, Zulma Bouffard, grande vedette, pour laquelle Offenbach a créé nombre de rôles travestis. Mais le croirez-vous, il n'existe à ce jour aucun enregistrement intégral du Voyage dans la Lune. Et parmi les extraits dont nous disposons, cet air n'a été enregistré qu'une seule fois par un ténor. Tout comme le deuxième air de Caprice, une romance, Ô Reine de la Nuit, qui s'adresse, devinez,
mystérieuse. Mon cœur tout est perdu, que ta pâleur enivre. Mon cœur voudrait te suivre vers le monde inconnu. Oui, sur terre tout m'importune, et dans les cieux je saurai mieux. Papa, 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 je veux la lune.
Oui, c'est bien à la lune que s'adresse Caprice. Loin de vouloir prendre la succession de son père comme roi, il n'a à présent plus qu'une idée, rejoindre l'astre des nuits. On entend dans cet air quelque chose d'un peu sentimental, qui appartenait déjà auparavant à la manière d'Offenbach, mais qui correspond bien aussi à l'esprit de la Troisième République. Le temps du Second Empire est terminé, Sedan est passé par là. C'est aussi pourquoi Offenbach s'est tourné vers un genre d'ouvrage légèrement différent de l'opéra bouffe qu'il pratiquait dans les années 50 et 60, l'opéra féerie. Un ouvrage qui demande, pas nécessairement des fées ou des magiciens, mais en tout cas, des machines pour faire rêver les spectateurs. Et d'ailleurs, vous vous demandez peut-être comment le jeune Caprice va pouvoir aller sur la Lune. Eh bien voilà, le savant Microscope a été chargé par le roi Vlan de trouver un moyen de transport. Après moult recherches, Microscope a mis au point un obus qui va être tiré jusqu'à la Lune. C'est à bord de cet engin que Caprice va s'envoler avec son père et le savant. Et pour le trio de l'obus, nous avons une version où Caprice est chantée par une soprano, Christiane Arbel. De ce voyage dans la Lune, je ne vous fais écouter là que la musique d'Offenbach. Mais lorsqu'il est donné en spectacle, cet opéra féerie ressemble plus à une pièce de théâtre qu'à un opéra, avec de longs dialogues parlés, entrecoupés de quelques numéros musicaux. Il se passe donc une foule de choses en dehors de ce que nous entendons. Et bien sûr, avec ses 4 actes et 23 tableaux, les décors, les costumes et les machines ont toute leur importance. au premier acte, on a vu l'intérieur de la coupole de l'Observatoire de Paris, dûment copié par un peintre entré subrepticement dans le lieu véritable pour en prendre un croquis. Ensuite, c'est le décor du haut fourneau dans lequel on fond un canon monstre. Selon le Figaro du lendemain de la création, un canon de 20 lieues qui commence vers la Seine et se perd dans le lointain. Canon géant posé sur des montagnes, traversant une énorme vallée, passant par-dessus les ponts, les rivières et les villages pour disparaître à l'horizon. C'est grâce à ce canon qu'est tiré l'obus dans lequel nos héros se trouvent enfin transportés sur la Lune, où ils découvrent une ville à l'architecture bizarre. C'est là qu'ils font la rencontre de la jeune Fantasia, fille de Cosmos, le roi de la Lune.
Tu devais le jour de ma fête, que si tu me l'avais promis, m'offrir quelques joyaux de pourrie, oui, ma belle, belle toilette. Eh bien, papa, je réfléchis, j'y renonce, mais à la place de ces pauvres gens que voici, je viens te demander la grâce. Ah, mon papa, mon cher papa, allons, fais-moi ces plaisirs, mon papa, mon cher papa,
comme vous vous en doutez, quoique l'amour n'existe pas sur la Lune, la princesse Fantasia a tout de suite un faible pour Caprice, le jeune terrien, et ce faible est réciproque. Caprice va faire goûter à Fantasia les produits de la Terre qu'il a apportés avec lui, en particulier une pomme, effet garanti.
Mon Dieu, qu'ai-je ressenti là ? Un coup, un choc, une secousse, mon cœur.
Votre cœur.
Comme il bat.
Il bat.
Il bat, il se trémousse.
Il se trémousse.
C'est votre fil à fruit.
Au ciel, est-il possible?
Mon cœur est plus sensible.
Mais quoi se pourrait-il donc faire? Que ce fruit jadis défendu, qui ne fait plus d'effet sur terre, dans la lune et tant de vertus.
Oh, l'étrange mystère qui se produit en moi, je me sens plus légère, et sans savoir pourquoi, tout vient dans ce changement-là.
De l'amour,
je suis amoureuse. Pourquoi?
Curieux.
Pourquoi? Pourquoi cela?
Venez de mordre à la pomme.
À la pomme.
Vous venez de mordre à la pomme.
À la pomme.
À la pomme.
Me parle quand je puis t'entendre. Enfin mes yeux s'ouvrent toujours. Maintenant je puis te comprendre. Car je connais.
Car il a connu l'amour, tu connais l'amour,
je connais l'amour.
Oh, la pomme, c'est bien bon vraiment de croquer la pomme. Oh, quel fruit charmant, la pomme, c'est bien bon vraiment de croquer la pomme. Oh, quel fruit charmant, oh, doux fruit de la terre. Adorable mystère,
émerveillez-moi.
Ô doux fruit de la terre,
ô divine lumière.
Adorable mystère,
émerveillez-moi.
La pomme, la pomme, c'est bien bon vraiment de croquer la pomme. Ah, quel fruit charmant. C'est bien bon vraiment de croquer la pomme.
les décors du voyage dans la Lune sont follement admirés par le public du Théâtre de la Gaîté à la création du 26 octobre 1875. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de dialogues entremêlés de musique. Néanmoins, une large place est faite au ballet. Un ballet des chimères à l'acte 2 et un ballet des flocons de neige particulièrement applaudi à l'acte 3. Certains prétendent que les applaudissements étaient en proportion inverse avec le peu de vêtements portés par les danseuses. Mais la ravissante orchestration d'Offenbach y était sans doute aussi pour quelque chose. Et la musique ? Demande le ménestrel au terme d'un article sur le voyage dans la Lune. C'est de l'Offenbach du bon tonneau. La muse du compositeur a bu de l'eau de jouvence. Elle s'est retrouvée leste et pimpante comme au plus beau jour, courant et serpentant au milieu des événements de la pièce, ne posant nulle part lourdement, n'écrasant rien, arrivant à point pour réchauffer une scène, pour forcer le succès.
Il neige, nous grelottons la neige, qu'on bafle quand on va faucon.
Il neige, nous grelottons la neige, qu'on bafle quand on va faucon.
La fâcheuse aventure au moment le plus heureux, voilà que la nature s'est mise contre nous deux. Vainement, je m'enflamme, mon cœur est pris par le froid, mais je brûle et puis d'âme, tout se glace autour de moi. Il fait trop froid, vraiment, il fait pas trop froid. Brrr, brrr, brrr. Il neige, nous grelottons la neige, on bat flocon.
Il neige, nous grelottons la neige, on bat flocon.
Je laisse le dernier mot au Figaro qui décrit le décor final du voyage dans la Lune. Mais voilà la Terre qui se lève, la Terre qui éclaire la Lune absolument comme la Lune nous éclaire. La boule terrestre grandit et devient radieuse. Elle envahit la scène, laissant voir des taches qui rappellent l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. C'est sur ce clair de terre que la pièce se termine. Clair de terre finale du Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach avec Lina Dachary, Michel Hamel, Joseph Perron, Michel Caron, Gaston Rey, Lucien Lovano, les chœurs et orchestres lyriques de la RTF dirigés par Marcel Cariven, enregistré en 1962. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Cédric Chatelus pour le mixage. À réécouter sur francemusique.fr.